RTL. Qui est le patient zéro en France?
La curiosité est un vilain défaut.
Les épidémiologistes ont interrogé des centaines de personnes depuis plus d'un mois.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le virus circulait déjà dans le département à la mi-janvier selon les épidémiologistes, bien avant la contamination de l'agent civil de la base militaire de Creil et celle du professeur de technologie de Crépy-en-Valois, la première victime française du coronavirus.
Bonjour Luc Pérignot.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes déjà venu dans notre curiosité, évidemment. Vous êtes médecin, clinicien, écrivain, diplômé d'épidémiologie et de médecine tropicale. C'est vrai que depuis le début de l'épidémie du coronavirus, on le cherche, c'est comme une enquête, il y a beaucoup de suspense. Ce patient zéro, celui par lequel le virus aurait commencé à se propager, qu'est-ce qu'un patient zéro ?
Alors, le terme a été repris par les médecins. Au départ, ce n'était pas les médecins qui l'utilisaient. Ils utilisaient un autre terme pour le début d'une épidémie. Ils disaient le cas index. Maintenant, ils disent le patient zéro depuis l'épidémie de sida en 80. Aux États-Unis, on a identifié une personne qui aurait contaminé à lui seul le quart de ceux qui ont été contaminés. On l'a appelé le patient zéro. Je pense que c'est un journaliste, d'ailleurs, qui a dit ce terme. Et les médecins l'ont repris pour toutes les épidémies, pour essayer de remonter à l'origine de l'épidémie. Donc.
Dans ce cas de Covid-19, pourquoi c'est compliqué de découvrir et de retracer, de remonter jusqu'à ce patient zéro en Chine, par exemple?
Alors, pour une épidémie comme celle-ci, qui est une virose respiratoire, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué parce que la transmission est très rapide et tout va très vite, en fait, depuis le premier patient. On a très vite un grand nombre de patients, comme vous le savez. Donc, on peut remonter assez vite. Ça ne remonte pas très loin dans le temps.
Oui.
Par contre, lorsque la transmission est plus difficile, par exemple la transmission sanguine, hein, il faut beaucoup de temps pour remonter. Par exemple, pour donner l'exemple du sida, on est remonté, donc qui est à transmission sanguine, enfin au départ qui est à transmission sanguine, puis secondairement sexuelle, on est remonté jusqu'en 1920. Mais il a fallu longtemps pour arriver en 1901 parce que la transmission est plus sournoise, j'allais dire. Tandis que là, on a une transmission qui est évidente. Hein. C'est le contact, c'est la respiration, donc c'est très facile de remonter au début de l'épidémie.
Luc Pérignot, vous publiez « Patient zéro », cette édition de la découverte. Alors on va raconter, il y a plein d'histoires, on en a choisi deux avec Sidonie, et on va commencer par cette histoire qui commence en Irlande. On est à la fin du 19e siècle, qui est... Mary Malone, quel est son quotidien quand elle a une quinzaine d'années?
Voilà, alors effectivement, vous avez choisi cette histoire qui est, je pense, parmi les 26 histoires que j'ai racontées, une qui commence à être un peu connue, mais qui a rarement été racontée en français, qui est très connue des Américains. Oui, cette jeune Irlandaise était d'une famille très pauvre, et évidemment, à cette époque-là, pour gagner un peu sa vie, il fallait partir, bien sûr, c'était aux États-Unis. Donc elle est partie aux États-Unis, et en arrivant aux États-Unis, effectivement, elle a eu une succession de son histoire est très connue parce qu'elle a propagé la typhoïde autour d'elle, en fait. Typhoïde qu'elle avait certainement quand elle a quitté l'Irlande. Elle ne le savait pas et elle ne l'a jamais su, d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on a découvert que partout où elle travaillait, elle avait contaminé ses patrons, ses familles où elle travaillait, elle était cuisinière, on a trouvé qu'elle, c'est elle qui était à l'origine des épidémies.
Alors, cette histoire, justement, Luc Pérignot, on va prendre le temps de la raconter, de la détailler un peu. En 1900, cette jeune femme, Mary Mellon, est très contente puisqu'elle vient d'obtenir un poste de cuisinière à plein temps dans une riche famille de New York. Ça se passe comment dans cette première famille ?
Bah, ça se passe, elle était cuisinière.
Ouais.
Les cuisinières irlandaises étaient très recherchées. Voilà. Donc elle travaille, elle faisait son boulot, tout le monde était
content. Soudain,
voilà, quand soudain,
que se passe-t-il ?
Voilà, vous l'avez dit, quand soudain, plusieurs membres de la famille tombent malades, dont certains sont hospitalisés. Dans la première famille, je crois qu'il n'y a pas eu un décès tout de suite, ou peut-être un, je ne sais pas. Et ça s'est passé comme ça, plusieurs fois de suite, mais elle ne se doutait pas, bien sûr, que ça venait d'elle.
Elle avait l'impression d'avoir une super santé aussi.
Ah oui, elle est en bonne santé.
Elle se croit invincible.
C'est une femme... Alors, pourquoi j'ai choisi ce personnage? Parce qu'en plus d'être une histoire médicale passionnante, elle est elle-même un personnage romanesque. Hein. C'était une jeune femme forte, bien en chair, qui aimait la bonne cuisine, et qui avait une santé de fer et un moral de fer, et un moral d'acier.
De quoi souffrez-vous?
Oh, bah, attendez que je réfléchisse.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Eh bien, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Et attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Je suis malade.
Extrait, la réplique la plus célèbre du docteur Knock, Louis Jouvet, évidemment dans le rôle principal.
J'aime bien le diagnostic,
d'abord au théâtre, puis dans cette version au cinéma. Et là, on entend les Twin Brothers qui reprennent là aussi l'immense tube de Serge Lama. On est avec Luc Perrineau, médecin clinicien, écrivain, diplômé d'épidémiologie et de médecine tropicale. Des histoires de patient zéro avec vous, Luc Perrineau. On raconte donc Mary Mallon, elle a 15 ans quand elle quitte l'Irlande, fin 19e siècle. Elle trouve un premier poste de cuisinière dans une riche famille de New York. Mais alors, elle va aller de famille en famille et à chaque fois, les gens tombent malades, comme des mouches, pardon, pour ce cliché, autour d'elle. Elle est porteur sain ou porteuse saine, je sais pas. Ça veut dire quoi, porteur sain?
Alors ça, c'est très intéressant parce que ce cas, c'est certainement la première fois, le premier patient chez lequel on a eu la preuve de ce qu'on appelle le portage sain d'un microbe pathogène. C'est-à-dire qu'un microbe d'habitude qui rend malade, hein, la typhoïde, c'est un microbe méchant. Hein, et bien, on a découvert qu'on pouvait porter cette bactérie, ce bacille, c'est un bacille, sans avoir le moindre symptôme. Ça avait été supposé avant par le grand Koch, le pasteur allemand, Koch, qui avait dit, il est probable que ces virus et ces bactéries, on peut les porter sans être malade. Pasteur n'était pas trop d'accord. Claude Bernard, lui, pensait que le terrain était aussi important que le microbe, finalement. Que finalement, on pouvait avoir un microbe, mais selon le terrain, il rentrait ou rentrait pas.
Mais c'est parce que Mary Mallon était une force de la nature, qu'elle avait une bonne santé, que c'était une porte saine. Parce qu'elle-même, quand elle est arrêtée par la police, parce qu'il y a un épidémiologiste qui va s'intéresser à ça, elle veut pas faire les analyses. Elle dit, mais moi, je suis en très bonne santé, de quoi vous m'accusez?
Absolument.
Et donc, c'est parce qu'elle est en bonne santé qu'elle développe pas cette maladie, la typhoïde.
Alors, en tout cas, elle était... Alors, il faudrait faire un peu... Lorsqu'il y a un virus comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quatre types de personnes face à ce virus.
Oui.
Soit le virus passe à travers vous et il ne fait que passer, il ne rentre pas dans une seule cellule. Soit il rentre dans quelques cellules, mais il ne vous donne aucun symptôme, parce qu'il a rentré dans peu de cellules. Soit il rentre dans plus de cellules et vous allez avoir des symptômes, une grippe, un rhume, être malade, hein, comme c'est le cas pour le Covid, avec des symptômes relativement bénins, on va dire. Soit, le cas le pire, il vous tue. Hein, voilà. Il y a quatre variétés, j'allais dire, de personnes face... variétés immunologiques face à ce virus. Et effectivement... Mary Mallon était porteuse saine, donc c'était pas le premier cas de la bacille qui passe, mais il était rentré et elle le portait sans symptômes. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle avait une bonne santé? Sans doute, mais c'est surtout parce qu'elle rentrait dans cette catégorie immunologique des gens qui peuvent être porteurs sains sans développer la maladie.
Luc Perrineau, est-ce qu'on peut dire qu'avec Mary Mallon, c'est la trouvaille du premier de la notion de porteur sain, c'est-à-dire l'épidémiologiste qui découvre ça, George Soper, il découvre le concept du porteur sain. Et donc, elle fait avancer la science.
Tout à fait. Lui a fait avancer la science et elle aussi. On s'en doutait, mais on n'avait pas la preuve.
Alors, on va raconter une autre histoire qui est dans votre livre « Patient zéro » publié aux éditions de la Découverte, puisqu'il y a 26 belles histoires à découvrir. Celle du patient zéro de la maladie d'Alzheimer. Racontez-nous.
Alors, comme vous faites bien de me parler de ça, parce que les maladies infectieuses dans mon livre ne représentent que 5 ou 6 histoires. J'ai pris bien d'autres histoires qui ne sont pas du domaine des maladies infectieuses, parce que mon idée, c'était d'une part de rendre hommage aux patients, de montrer que c'est quand même eux qui sont les premiers concernés par une nouvelle maladie. Et puis surtout, de montrer qu'une nouvelle maladie, ce qu'on appelle une nouvelle entité diagnostique, un nouveau diagnostic finalement, il résulte d'abord d'un malade qui est porteur de la maladie, d'un médecin qui s'interroge sur ce cas, et d'une époque. Hein, selon l'époque, on va avoir ou pas avoir une maladie. Donc avant le cas dont vous parlez, donc de la maladie d'Alzheimer, on appelait ça la démence sénile. La démence sénile, c'était les vieux qui vieillissaient, et comme leur peau vieillissait, leur cerveau vieillissait. Ils étaient ridés du cerveau comme de la peau.
Et on ne se posait pas plus de questions.
Voilà, c'était comme ça. Et puis, il s'est passé qu'au moment où l'histoire de cette dame qui s'appelle Auguste Deter, qui est une Allemande, qui a des symptômes, elle, forts, elle a une démence sénile trop précoce. Elle est trop jeune pour avoir une démence sénile. Mais il y avait une nouvelle technologie qui était la coloration argentique des neurones.
Oui.
Et donc, on voit qu'elle a des neurones colorés d'une façon spéciale, qu'elle a les symptômes de la démence sénile, et il y a un médecin qui fait ça. Et donc, quand on a les trois, on crée une nouvelle maladie qu'on a appelée la maladie d'Alzheimer.
Oui, il faut que la science ait avancé pour qu'on puisse découvrir et identifier un nouveau patient zéro.
Mais s'il n'y avait pas eu la coloration argentique, cette maladie aurait été créée, peut-être 20 ans plus tard, créée. C'est un mot entre guillemets, elle n'aurait été nommée que 20 ou 30 ans plus tard.
Nous nous sommes cachés sous la Terre dans un silo nucléaire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous avons été décimés par une force bien pire que tout ce qu'on peut imaginer.
Sur RTL.
Une super souche du virus de la rage qui transforme les êtres humains en prédateurs ultra-violents. On les appelle les infectés.
La curiosité est un vilain défaut.
Il n'existe aucun traitement. Il n'existe aucun vaccin.
Extrait du film plus que prémonitoire, Patient Zéro, les patients zéro les plus célèbres.
Enfin là, heureusement, avec la Covid, on ne se transformait pas en monstre.
Oui, il manquait plus que ça. Quoi que certaines personnes, on ne sait jamais. Ouais, ouais. Les patients zéro les plus célèbres de l'histoire, non. Dans l'œil de notre curiosité, sur RTL avec Luc Perrineau, médecin clinicien, écrivain, épidémiologiste, on peut dire aussi.
Absolument.
Bien sûr. On raconte avec vous l'histoire maintenant du petit Joseph Meister, patient zéro du vaccin contre la rage. Alors, on va poser le décor. Tout commence le 4 juillet 1885, à 5h du matin. Monsieur Meister, qui est donc boulanger à Stage, on dit, c'est comme ça qu'on prononce, ouais, on est d'accord, on est dans une commune du Bas-Rhin. Il envoie son fils faire une course dans le village voisin. Vous nous racontez la suite ?
Voilà, donc c'est le petit Joseph Meister. Je pense que beaucoup de Français en ont entendu parler au moins une fois, même s'ils ne connaissent pas l'histoire. Et donc, il se fait mordre par un chien dont tout laisse supposer que ce chien est arrangé. Il avait un comportement anormal. Il a été mordu 14 fois, l'enfant. Et donc, on suppose que l'enfant aurait pu être contaminé par le virus de la rage qui, comme vous le savez, est une des rares deux ou trois maladies que je connaisse qui a une létalité de 100%. Hein. La létalité, donc, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de cas. Hein. Donc, quand vous avez la rage, c'est la mort garantie. Il n'y avait que deux maladies identiques, c'était la peste et le sida.
Donc, on est en 1885. Voilà. Évidemment, on ne connaît pas encore le vaccin officiellement contre la rage. Que décide de faire la maman? Elle voit d'abord le médecin de famille, il ne peut pas faire grand-chose.
Voilà, donc elle voit le médecin. Non, il n'arrive même pas tout de suite, le médecin de famille. Il n'y avait pas le SAMU à l'époque. Et dans le bistrot où l'enfant est recueilli avec le propriétaire du chien, on apprend qu'il y a un certain monsieur Pasteur à Paris qui fait des miracles et qui fait plein d'expérimentations sur les vaccins. Et la mère, qui était une femme très courageuse et qui voulait sauver son enfant, va à Paris en carrosse. Enfin, elle va à Paris et elle arrive, elle peine à trouver Pasteur, et Pasteur n'avait jamais essayé son vaccin. Enfin, il avait essayé une fois, mais bon, on peut en reparler après. Il n'avait jamais essayé le vaccin chez l'homme.
Ah oui.
Il l'avait essayé que chez des chiens, avec une mortalité de 50% des chiens. C'est-à-dire, quand il vaccinait les chiens, ah oui, il mourait dans la moitié des cas à cause du vaccin.
Et alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Donc, on imagine cette maman affolée qui a son petit qui a été mordu 14 fois. Donc, tout le monde se dit, OK, il a la rage, il va mourir. Que fait Pasteur? Comment ça se passe?
Alors, Pasteur, il a envie, évidemment, de passer à l'expérimentation humaine. Il l'avait fait une fois, mais il y avait un doute parce que la jeune fille allait mourir. Donc, c'était une expérimentation qui n'était pas bonne. Mais là, il a un garçon qui est en pleine santé. Il décide de faire ça.
Il peut le sauver, quoi.
Voilà. Il a une chance sur deux, on va dire. Ouais. Une chance sur deux. Mmh. Mais il travaille avec des médecins. Lui, il n'est pas un médecin, vous savez, Pasteur, il est chimiste. Il travaille avec des médecins qui disent, non mais là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un vaccin qui peut tuer l'enfant.
Ah oui, il y a trop de risques pour l'enfant.
Ils évaluent déjà les risques à l'époque. Ouais. Alors ce serait aujourd'hui, je le dis tout de suite, ils ne pourraient pas le faire.
Ouais, bien sûr.
Ils ne pourraient pas. Mais là, ils essayent, la mère insiste, et ils le font. Et pile ou face, ça a marché.
Qu'est-ce que Louis Pasteur injecte dans le bras ou la jambe du petit Joseph Meister?
Alors il a injecté ce qu'on appelle un virus vivant, hein, vivant atténué. Mais ce virus vivant atténué, donc c'était le procédé de Pasteur. Mmh. Le procédé de Pasteur, c'était de pouvoir atténuer la virulence des virus. Ouais. Donc c'était son procédé qu'il connaissait bien, il l'avait expérimenté chez des animaux. Mais là, il l'injecte à un être humain. Et ce virus vivant atténué, on ne sait pas s'il est bien atténué ou il peut être à moitié virulent ou très virulent.
Mais il l'a récupéré où, ce virus de la rage?
Le virus de la rage était connu. Hein, le virus de la rage était connu.
Mais dans un autre animal, alors? Dans
voilà,
un animal,
alors,
ouais.
Donc c'est des virus qui sont transmis, généralement c'est des lapins qui servent à l'expérimentation, et on les atténue par passage successif. Ah oui. Voilà. Et donc, il avait été atténué, mais avec un risque majeur pour l'enfant. Mais voilà, bon, Inch'Allah.
Et alors, en combien de semaines, Joseph Meister est soigné? À quel moment on sait que ce vaccin a sans doute marché.
Alors, il s'est passé quelque chose que l'histoire ne raconte pas trop. C'est qu'effectivement, il fallait faire plusieurs injections. Il en a fait une quinzaine en tout, à peu près. Mais apparemment, les dernières injections, il a fait quelque chose qui n'était pas du tout éthique. Il a augmenté la dose. Il a augmenté en fait la virulence du vaccin, qui n'était plus une vaccination, c'était en même temps une façon de tester si les injections précédentes avaient été efficaces ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, il a presque donné la rage, alors c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, mais bon, oui. il avait presque donné la rage à l'enfant, la vraie rage, oui, pour voir si les premiers vaccins avaient été efficaces. Et ils avaient été efficaces puisque l'enfant n'a pas contracté la rage.
Donc il a sauvé ce jeune garçon. Quelles conséquences ça a pour Pasteur? C'est-à-dire que ça lui donne quoi? De la célébrité, des moyens? Qu'est-ce qui se passe après?
Alors là, ça a été à cette époque-là, il y avait les médias donc qui étaient très actifs et qui ont évidemment répercuté cette histoire dans le monde entier. Tout le monde a connu l'histoire du petit Joseph Meister. Et alors ça a été le jackpot, pour parler simplement, pour Pasteur, qui était le vrai chercheur avec tout ce que ça comporte, qui faisait de l'interdisciplinarité, donc avec des médecins, des biologistes. Et il avait donc son institut qui démarrait à peine, et il a reçu des subventions venant du monde entier pour que son institut prenne la gloire que vous connaissez.
Donc l'institut Pasteur reste, créé en 1887.
Et on peut dire que c'est grâce au petit Joseph Meister.
Qu'est-ce qu'il est devenu, Joseph Meister?
Alors, cet homme-là avait sans doute quelques autres problèmes. Il a été... Alors, évidemment, Pasteur était son dieu.
Il a même travaillé avec lui.
Il a travaillé à l'Institut Pasteur. Ah, il a travaillé à l'Institut Pasteur. Et puis, il a mal vieilli. Après, pendant la guerre, il y a eu des problèmes avec sa famille. Il a fini par... Il avait sans doute ce qu'on appelle une maladie bipolaire, probablement. Je n'en suis pas sûr. Et il a fini par se suicider, cet homme-là. Voilà. Il n'est pas mort de la rage, mais il est mort de la maladie bipolaire quelques années plus tard.
Merci infiniment, Luc Perrineau. C'était passionnant. Merci, d'autres histoires comme ça à découvrir dans votre livre Patient Zéro. C'était aux éditions de La Découverte. À très bientôt.
Merci, Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.